Décryptage, Marie Cazadebé.
En France, les services d'urgence des hôpitaux sont au bord de l'implosion. Les patients sont de plus en plus nombreux à s'y présenter. Le personnel se dit débordé, épuisé, soumis à une violence quasi quotidienne et incapable de soigner correctement.
On travaille à la chaîne. C'est plus des patients exactement que l'on a. C'est des bras perfusés, c'est des sondes apposées.
La colère gronde depuis plus de deux mois. Désormais, près de 80 services d'urgence sont en grève à travers le pays. Pressée de réagir, la ministre de la Santé Agnès Buzyn a annoncé quelques mesures jeudi dernier, insuffisantes pour le personnel hospitalier qui se donne rendez-vous demain dans la rue pour manifester. Alors d'où vient le malaise? Comment les urgences en France en sont arrivées là? Nos invités vont nous éclairer. Bienvenue dans Décryptage. Bonsoir Frédéric Bizard.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes économiste, spécialiste des questions de protection sociale et de santé, président de l'Institut Santé, un organisme de recherche dédié à la refondation du système de santé français. Et nous sommes en ligne avec Inès Gay. Bonsoir.
Bonsoir.
Infirmière de nuit aux urgences de l'hôpital parisien Lariboisière, membre du collectif Interurgence. Merci d'être avec nous. Si j'ai bien compris, vous avez peu dormi, donc merci pour votre témoignage. Pour commencer, Frédéric Bizard, qu'est-ce que ça veut dire un service d'urgence en grève? Est-ce que, en ce moment même, ces 80 services dont on a parlé dans l'introduction fonctionnent moins bien, sont perturbés, voire paralysés?
Oui, enfin, vous avez des règles qui font que le service doit continuer à fonctionner. Vous avez le directeur de l'établissement qui peut demander, malgré ses grèves, exiger à ce que le service tourne. Et puis, vous avez ce qui est beaucoup plus brutal et ce qui a été utilisé avec un petit peu ce qui a fait scandale, c'est des réquisitions par le préfet. C'est-à-dire que l'État, si jamais la direction de l'hôpital n'arrive pas à faire fonctionner le service, peut réquisitionner et demander aux gendarmes d'aller chercher les infirmières ou les médecins chez eux pour les obliger à travailler. C'est ce qui a été fait. Et là, véritablement, on est dans quelque chose de relativement brutal. Donc là, on voit qu'il y a un mouvement qui s'est durci au point qu'il n'y a plus de dialogue possible. Je pense que cette infirmière va nous expliquer un petit peu le cas dans son service, où il n'y a plus de dialogue possible au sein de l'établissement. Donc c'est quelque chose d'assez dur.
Et justement, Inès Gay, quelle forme prend ce mouvement dans l'hôpital où vous travaillez, Lariboisière à Paris?
La forme du mouvement, écoutez, nous, c'est simple. La forme, c'est que tout le personnel est épuisé et il y a un moment, il y a une corde, on n'arrête pas de tendre dessus, ça se rompt. Et quand on est épuisé, on va voir son médecin généraliste et on demande à pouvoir se reposer un petit peu. C'est une décision médicale, les arrêts maladie. C'est pas de notre fait. Il se trouve que après. C'est pas la seule action possible en soi d'aller voir un médecin généraliste et dire qu'on est épuisé. Il y a tout un tas d'actions qui sont possibles et qu'on est en train d'envisager. Et ça, par contre, on est en train de se concentrer là sur un paquet d'assemblées générales qui se passent dans les régions pour déterminer la suite du mouvement en elle-même. Moi, contrairement à ce que vous dites, je pense pas que le dialogue il soit rompu. Je pense que le dialogue, il peut continuer et nous, on a vraiment envie de dialoguer avec la ministre.
Alors, à l'hôpital Georges Pompidou, toujours à Paris, il y a une dizaine de jours, le personnel des urgences a lancé une grève express, 5 minutes dans la cour de l'hôpital. L'un de nos reporters y était.
Mardi, un patient était énervé parce qu'il n'y avait pas assez de médecins, pas assez d'infirmiers, donc il a attendu 2h30. Il s'en est pris verbalement à une de mes collègues en disant qu'on était des incapables, etc. Et il a commencé à la bousculer. Et ça, c'est récurrent, c'est tous les jours.
Le problème, c'est que la maltraitance, nous aussi, on l'a fait subir, malheureusement. C'est-à-dire que les patients, quand ils nous demandent un bassin, un urinal, un verre d'eau, et qu'on n'est pas capable d'aller leur donner dans la minute où on nous le demande, parce que ce sont des besoins primaires, ce sont des besoins nécessaires, là, oui, on rentre dans la maltraitance.
On compte aujourd'hui 21 millions de passages aux urgences par an, c'est deux fois plus qu'il y a 20 ans, sans pour autant que les moyens aient doublé. Inès Gay, comment ça se traduit alors au quotidien dans votre travail ?
Au quotidien, ça se traduit quand les conditions de travail sont très dégradées, comme l'a dit la paramédicale précédente, les conditions d'accueil des patients sont dégradées également. Et ça crée de l'insécurité et ça crée, comme on l'a vu plusieurs fois et comme ça n'est pas forcément médiatisé à chaque fois, des laissés sur les brancards. La partie la plus visible, c'est l'agressivité, les incivilités, les insultes, les menaces de mort, etc. étant le plus visible. Après, il y a aussi derrière les agressions. Pour parler de Lariboisière, il y a un patient mécontent de sa prise en charge qui est venu lancer un cocktail Molotov sur le toit des urgences. On a déjà retrouvé des armes à feu, une arme à feu dans le plafond des toilettes. Enfin, ça prend vraiment. Enfin, la violence, elle prend différentes formes. Je trouve que la violence, c'est un symptôme. Enfin, il y en a une partie qui est déclenchée par par la bêtise humaine, mais bon, elle est infime, par l'alcoolémie de certains patients ou par les prises de toxiques. Mais ça, c'est une partie de spécialité pour laquelle on est formé à prendre en charge. Enfin, on est formé à prendre en charge cette violence-là. Alors que l'autre type de violence, c'est des patients qui, enfin, c'est une violence qui est légitime. C'est celle qui est générée par des temps d'attente trop longs, la douleur, la peur, l'inquiétude, l'incompréhension, parce que quand on est en sous-effectif, on peut pas bien informer les patients. Ça, c'est dû à la saturation.
Ouais, Frédéric Bizarre, est-ce que c'est une situation commune à toute la France ou bien il y a des zones beaucoup plus tendues que d'autres?
Non, c'est pas une situation commune à tous les services, parce que d'abord il y a une activité qui est très différente d'un service à l'autre. Il y a une montée en puissance des urgences qui n'est pas le même dans les différents services, dans les différentes régions. Mais ce que je crois, c'est qu'il faut quand même essayer de comprendre pourquoi cette situation arrive. On n'est pas dans une phase d'épidémie particulière. On est dans une phase relativement normale. Les Français sont pas devenus tout d'un coup extrêmement fragiles ou autre. Il y a le vieillissement de la population, mais tout ça on le connaît. Donc je crois qu'il faut quand même essayer d'expliquer un petit peu pourquoi on en est là. Et c'est une réalité. Les gens sont épuisés dans les services. Ce que dit madame, on le voit dans d'autres services. Et si on arrive à cette situation, c'est que véritablement, on est au bout du bout. Pourquoi est-ce qu'on a tiré sur la corde comme ça? Il y a plusieurs raisons. D'abord, on a une médecine de ville qui est en souffrance, comme l'hôpital est en souffrance, et qui n'arrive pas à organiser la permanence des soins, pas simplement pour une question de moyens, c'est aussi pas simplement pour une question d'effectifs, contrairement à ce qu'on dit assez facilement avec la désertification médicale. C'est que tout simplement, on n'a pas mis les moyens pour que les médecins en ville assurent cette permanence de soins. On a des lieux, les agences régionales de santé ont réservé des lieux qui sont souvent lugubres de cette permanence de soins, de 20h à 24h. Les médecins, s'il n'y a pas de passage suffisant, les médecins n'ont pas de forfait, ne sont pas payés pour aller là-bas. Donc ils sont déjà en effet sur, eux aussi, en suractivité la journée. Donc on voit bien qu'on n'a pas mis les incitations suffisantes en ville pour qu'il y ait cette prise en charge.
Ce que vous voulez dire, par exemple, là vous évoquez la nuit, c'est pour ça qu'aujourd'hui on a des difficultés à aller voir un médecin généraliste la nuit et qu'on se reporte très facilement vers les urgences des hôpitaux.
Absolument. Donc vous avez 850 000 à peu près en moyenne passages supplémentaires par an. On est à 23 millions aujourd'hui de passages en ville. Donc on est sur une suractivité des urgences dont, d'après les chiffres de la Cour des comptes et d'autres, vous avez 30 à 35% véritablement de ces passages qui résultent d'une urgence véritable. D'accord? Donc ça veut dire que le reste résulte de consultations plus ou moins graves avec la nécessité de faire des examens cliniques et sont faits à l'hôpital alors qu'une partie pourrait être faite ailleurs. Donc on a, mais le point c'est que là où il y a un petit peu d'hypocrisie de la part de l'administration hospitalière et de la part des agences régionales de santé, c'est que tout ça, ce sont des recettes pour l'hôpital. C'est 3 milliards 100 millions de recettes pour l'hôpital. Mais à côté de ces recettes, c'est vrai que les hôpitaux ne mettent pas les dépenses, les ressources nécessaires pour assurer cette augmentation d'activité. Donc on a un personnel qui est en surchauffe et on est dans la spirale infernale de la tension sociale qui génère des arrêts maladie et donc qui appauvrit les ressources.
Si je comprends bien, donc c'est intéressant, c'est pour les hôpitaux en tout cas d'avoir autant de patients qui poussent la porte des urgences, c'est autant de ressources qui sont engrangés.
Ce qu'a proposé la ministre, c'est 5 mesures, mais qui ne concernent que les services d'urgence. Donc, encore une fois, si on veut régler le problème durablement, il faut agir en amont de ces services d'urgence. Donc, ces services d'urgence ont besoin de davantage de personnel. Certains services, la ministre l'a dit, ont besoin sur lesquels d'investissement pour les remettre un petit peu à niveau. Mais une fois qu'on aura fait ça, on n'aura pas réglé le problème de cet afflux permanent qui nécessite toujours plus de moyens pour des gens qui n'ont pas à aller à l'hôpital.
Je vous propose justement d'écouter la ministre française donc de la Santé, Agnès Buzyn. Elle était il y a quelques jours chez nos confrères de France Inter.
Aujourd'hui, l'engorgement aux urgences est essentiellement lié au fait que les patients ne trouvent pas de médecins capables de les prendre, notamment sans rendez-vous. Et la loi de santé que je porte aujourd'hui au Sénat est une loi qui vise justement à mieux structurer en amont des urgences le fait que les personnes puissent accéder à des soins sans rendez-vous.
Mais comment vous expliquez que les personnels des urgences ne soient pas convaincus par ça ?
Moi, je comprends leur impatience. Ils sont débordés et donc je l'entends. Nous avons un impératif, c'est le fait que les personnes ne se rendent pas aux urgences de façon inappropriée alors qu'ils n'ont pas besoin, parce qu'ils n'ont pas une maladie vitale. Et nous avons besoin de travailler aussi sur l'aval, c'est-à-dire le fait qu'on dégage plus rapidement des personnes pour qu'elles rentrent dans les services conventionnels.
Inès Gay, on parlait de la médecine de ville, on manque de médecins généralistes. Notre invité Frédéric Bizard nous disait que finalement, ça manque, enfin, les moyens, on n'incitait pas assez finalement les médecins donc à s'installer. Est-ce que la médecine d'urgence n'est pas aussi confrontée à un problème de recrutement? Je disais qu'il manquait 80 professionnels en Bretagne, 120 dans les Hauts-de-France. Est-ce que ça pèse aussi sur les services d'urgence?
Oui, on manque également de médecins urgentistes. Ça, c'est une problématique qui existe depuis longtemps, on la connaît. Et ce que nous dit Madame la Ministre, c'est d'attendre les prochaines fournées de médecins qui, comme les précédents, vont rester 2 ans, 3 ans avant de juste rendre leur tablier et partir sur d'autres structures, des cliniques ou des cabinets de médecine générale.
Parce que ça, c'est un problème aussi au service, dans les services des urgences, justement, ce turnover où les gens sont vite épuisés et choisissent parfois des voies, on va dire, plus confortables ou mieux rémunérées.
Oui. Et il se trouve que ce problème-là, il se déporte aujourd'hui sur les paramédicaux. Enfin, on en voit les effets maintenant. C'est-à-dire qu'un infirmier, un aide-soignant, il reste aux urgences de 2 à 4 ans, même pas. Et c'est une grosse perte en compétences pour les services, donc une grosse perte de chance pour les patients qui sont pris en charge.
Frédéric Bizard, une fois le patient aux urgences, vous disiez finalement sur 100 patients, il y en a 35 qui ont vraiment quelque chose à faire aux urgences. Est-ce qu'il n'y a pas un dysfonctionnement aussi dans l'accompagnement des patients qui n'ont pas à être aux urgences? Est-ce qu'ils arrivent facilement à trouver une solution, peut-être au sein même de l'hôpital, un service plus adéquat pour répondre à leurs besoins?
Encore une fois, je pense qu'il faut changer de politique générale par rapport aux urgences, c'est-à-dire accepter, admettre qu'une partie des urgences doit être réalisée en ville, une partie des soins qui ne sont pas des urgences, qui sont des soins non programmés, donc avec des soins qui sont nécessaires en dehors des heures classiques d'ouverture des cabinets médicaux. Il faut qu'il y ait une politique efficace de tourner vers cette activité-là, ce qui n'existe pas. Par exemple, je vous prends un exemple, c'est qu'il n'y a aucune communication qui est faite dans les régions sur ces centres de soins non programmés, c'est-à-dire qu'ils sont inconnus de la part des patients. Et encore une fois, les patients ne passent pas tous par un numéro d'appel, le 15, le 17. Donc il y a des gens qui ont besoin, qui ont des enfants malades, qui ont besoin d'aller se faire soigner. Donc ils n'appellent pas. Donc ils vont directement aux urgences de l'hôpital. Parce que les seules urgences véritablement connues ou les seuls centres de soins non programmés véritablement connus sont les urgences hospitalières. Donc oui, il y a tout un travail en amont à faire. Et c'est là où je dis que l'administration est quand même largement fautive. On a parlé de moyens, mais aussi de politique. Qui soit véritablement une politique d'information, d'éducation du grand public vis-à-vis de ces centres-là. Donc ça, c'est pour ça que je pense que c'est un problème de politique générale. La ministre parle de la loi actuelle, mais qui n'a strictement rien. Ces communautés professionnelles de territoire de santé ont comme objectif de faire coordonner les professionnels de santé entre eux autour d'un projet de labelliser des communautés professionnelles de territoire de santé. Enfin, très honnêtement, ceux qui connaissent un petit peu la question savent bien que ça ne réglera rien à ce problème de premier recours, de soins non programmés. Donc, je pense que c'est c'est une vision davantage globale. Admettre que aujourd'hui, ce système-là, très hospitalo-centré, affaiblit tout le monde. Affaiblit la médecine de ville qui est montrée du doigt de façon totalement excessive et affaiblit les hôpitaux à qui on ne donne pas les ressources pour assurer ce surcroît d'activité.
J'allais en venir, on parlait du nombre de passages aux urgences, il a doublé en 20 ans. Inès Gay, est-ce que vous avez le sentiment que les moyens humains et les moyens financiers n'ont pas du tout accompagné cette expansion, donc 2 fois plus de patients qu'en 20 ans?
Oui, mais justement, en parallèle de ce que disait de ce que disait votre invité, il y a aussi une saturation du fait du désengagement de l'État de ses missions sociales. Par exemple, il y a de moins en moins de centres d'hébergement, donc aux urgences en hiver quand il fait quand les températures commencent à être négatives, nous celles d'attente sont, enfin en tout cas à la Riboisière c'est le cas et dans beaucoup d'autres, et celles d'attente sont bondées de sans domicile fixe qui viennent juste pour te mettre à l'abri. Mmh. Et moi j'ai un cœur sous la blouse et ces gens-là je les mets pas dehors et je leur donne un café le matin. Bon, les personnes âgées c'est pareil dans les EHPAD, ben ces personnes-là qui faute de prise en charge médicale sur place atterrissent aux urgences, elles ont rien à faire là parce qu'elles se dégradent sur les brancards et elles déambulent dans les couloirs, on n'a pas le temps de les gérer. Alors dans les pires des cas, quand on est tellement débordé qu'on peut pas les gérer, on les attache, c'est horrible. D'en arriver là, les mineurs isolés, j'en parle pas, il y a que des associations qui prennent en charge ces gens-là et les associations, leur budget baisse, il n'y a pas de structure pour les prendre en charge. Nous quand ils sortent, ils sortent toujours non accompagnés, parce qu'on a de moins en moins d'assistantes sociales pour les accompagner. Et ces patients-là, ils sont très chronophages et tout ça parce que derrière, il n'y a aucune structure sociale pour les accueillir. Mmh. Et nous, on essaye de pallier à ça, mais on est inefficace et on se retrouve complètement impuissant. Et ça fait aussi partie du gros blues des soignants.
Avec un chiffre, 150 à 200 000 personnes donc, qui dorment sur des brancards dans un couloir faute de place et de lits aux urgences. Frédéric Bizarre, les urgences sont devenues l'accueil finalement de toute une population qui ne sait pas vers où aller ou qui manque justement d'accompagnement. On parlait de SDF, de migrants, de mineurs isolés. C'est un service qui a évolué aussi.
Alors, ce que
ou
dit
une
Madame...
population qui a évolué. Oui,
ce que dit Madame Gay est absolument fondamental. C'est-à-dire que, d'une part, les urgences sont le miroir grossissant des dysfonctionnements de l'ensemble de notre système de santé, mais c'est aussi le miroir grossissant un peu d'une forme de misère sociale qui s'est installée dans notre société et qui, finalement, est insuffisamment prise en charge. Donc, est-ce qu'on veut donner aux hôpitaux un rôle purement social, hein, même pas médico-social, mais purement social, mais à ce moment là, ce que je ne pense pas est une bonne idée, mais c'est un débat qu'on peut avoir. Mais à ce moment-là, faut lui donner les moyens. avec un accompagnement social, ce qui n'est pas le cas. Donc déjà, on ne donne pas, si vous voulez, les moyens au personnel soignant pour assurer cette surcroît d'activité, parce que tout ça fait des recettes et on veut les garder, mais on veut pas non plus. On veut pas rajouter de ressources. Mais en plus, il y a ce problème social. Il y a un point qui est très important quand même, c'est que il y a aussi côté patient. Il y a une grosse distorsion entre les urgences hospitalières et puis les centres de soins non programmés en ville. Quand vous allez en ville à 23h, vous payez la consultation 70 euros. Mmh. Quelquefois, en devant avancer en fonction des médecins, de la pratique des médecins et de ce qu'ils peuvent faire, en devant avancer, c'est 70 euros. Vous êtes remboursé après et autres. Mais comme les médecins ont peur de ne pas être remboursés derrière avec ce fameux tiers payant qui n'est pas mis en place et de façon qui est peu efficace, vous voyez que donc il y a une forte incitation financière des gens à aller à l'hôpital pour des raisons. Donc il faut homogénéiser pour tout ce qui n'est pas de la vraie urgence. Ça, c'est un débat qu'il faut avoir. Est-ce qu'on met un ticket modérateur? Est-ce qu'on fait payer les gens quand c'est pas une vraie urgence? Mais en tout cas, il faut que ça soit les mêmes règles en ville et à l'hôpital si on veut éviter cet afflux à l'hôpital.
Si on se compare un peu à nos voisins en termes d'investissement justement dans les urgences, Frédéric Bizarre, quel est votre sentiment par rapport à donc nos voisins? Est-ce qu'on a des choses aussi à apprendre?
Alors, ce que l'on voit, c'est que par rapport aux autres pays européens, vous avez un recours aux urgences qui n'est pas plus élevé. Vous avez 30% en nombre de passages, ça représente en France exactement 29,7, disons 30% de la population. Hein, c'est 22 millions, c'est 30% de la population. C'est la moyenne des pays développés. Vous avez un pays comme l'Espagne où vous avez 52%. Le nombre de passages représente plus de 50% de la population. Au Portugal, c'est 70%. Bon, donc, mais c'est quelque chose qui est acté, avec lesquels pour lequel il y a des ressources qui sont mises en place d'urgence. Donc, il faut comparer les systèmes en connaissant bien les différents modèles. Le problème en France, je le redis, c'est qu'on fait de l'hôpital ce service d'accueil à la fois social et médical pour des choses qui peuvent être faites largement en dehors de l'hôpital, sans donner à l'hôpital les moyens de le faire. Et je pense qu'aujourd'hui, mais il faut aussi un débat au sein de l'hôpital, c'est que l'hôpital doit se recentrer sur ses missions premières, qui sont les urgences, mais les urgences hospitalières, pas les services de soins non programmés.
Merci beaucoup Frédéric Bizard pour merci votre analyse. Donc je rappelle que vous êtes le président de l'Institut Santé. Et merci Inès Gué d'avoir été en ligne avec nous, infirmière à l'hôpital parisien La Riboisière, membre du collectif Interurgence. Et merci à toute l'équipe de décryptage, Éléonore Krenik, Eugénie Ducré, Simon Carteret et Claude Battista. Tout de suite, un nouveau point sur l'actualité.